9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, bienvenue. Dernière émission de l'été avec Nadia Elbouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Mmh. Voilà, et après vous pourrez partir en vacances.
Oui, je pars pas en vacances tout de suite. Hein,
là, vous avez du grillage à poser.
Non, il est posé, c'est
après,
bon.
Et après, voilà. Vous pouvez...
Là, je bosse surtout cet été.
Notre invitée est Julie Dénez. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes éditrice, fondatrice de Mindset Édition, la maison de création d'expériences littéraires. Oui. Vous êtes alchimiste des mots, femme engagée. Quelle est votre vision de l'engagement?
Alors, j'en ai eu plusieurs. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt un engagement un peu plus soft, moins dans la colère, en tout cas, et plus dans l'espoir de quelque chose. Donc, je suis plus dans cet engagement. Je passe par la colère, hein, et c'était c'est un moteur d'engagement qui est très très fort. Hein. Mmh. Et une fois qu'on est passé par là, enfin, en tout cas pour ma part, c'est plus un engagement pour donner de l'espoir.
Vous êtes là pour nous parler de les violences conjugales, est-ce qu'on s'en sort? Les clés de mon chemin de résilience que vous publiez chez vous.
Ben oui, tant qu'à faire.
On est mieux servi que par soi-même.
Non, c'est pas si courant que les éditrices ou les éditeurs s'auto-publient, en fait.
Ouais. C'était assez évident parce que ça me laisse une liberté, ce qui veut pas dire que j'ai pas un regard extérieur ce que je suis en train d'écrire, bien sûr, mais je pouvais faire ce que je voulais, en tout cas mettre des illustrations, le manier comme je voulais, mettre le format que je voulais, et j'ai beaucoup aimé cette liberté.
Et votre éditeur vous a pas embêté en disant non, c'est trop cher, non, ça on peut pas le faire?
C'est ça, il a été très très conciliant.
c'est pas le sujet de votre livre, mais vous réalisez que vous avez monté votre maison d'édition?
Absolument pas. Tel que vous me voyez, non. Je me réveille le matin en me disant...
Vous êtes, là, vous êtes éditrice, wow. Finalement.
Et puis, c'est surtout... Enfin, en fait, là où je m'en rends compte, c'est quand j'arrive dans mon bureau et que je vois les piles de livres. Et je me dis, waouh, en fait, on a fait ça en même pas un an. C'est juste extraordinaire. Et c'est quand je vois les parcours des uns et des autres et tous ces auteurs et ces autrices extraordinaires que j'ai autour de moi. Vous voyez l'engagement aussi sur faire paraître peut-être des thèmes qu'on ne verrait pas dans d'autres maisons d'édition. C'est aussi ça, l'engagement.
Alors, le titre de votre livre fait référence à une question qu'une femme vous pose un jour en fin de conférence. Est-ce que vous savez maintenant comment on répond à cette question?
Oui, alors, et c'est rigolo parce que j'ai toujours autant d'émotions quand je raconte cette histoire, parce que c'était vraiment un moment très, 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 très fort. Jusque-là, j'avais surtout des femmes qui me posaient cette question-là. Est-ce qu'on s'en sort? Comment vous avez fait? Par message. J'en ai reçu, mais tellement. C'était très dur aussi de recevoir tous ces messages de femmes qui n'avaient jamais parlé, un peu d'hommes et d'enfants aussi qui avaient vécu ça. Et c'est vrai qu'au moment où elle me pose cette question-là, cette femme qui devait avoir l'âge de ma mère à peu près, hein, je ne sais pas quoi lui dire à part « oui, je suis là ». C'est tout ce que je pouvais lui dire parce que je ne savais pas à ce moment-là si on s'en sortait véritablement ou pas et comment on s'en sortait. Donc c'est tout ce que j'ai pu lui dire. Le fait d'être là, pour moi, c'est déjà une preuve de quelque chose.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, oui, c'est un peu différent. Là, je pourrais lui expliquer mon chemin à moi, en tout cas, chacune a son chemin.
C'est ce que vous dites, votre livre, c'est votre chemin, c'est l'histoire de votre parcours à vous.
Complètement, et c'est important de le dire parce qu'il faut éviter d'être dans l'injonction ou dans le « il faut », « tu dois ».
Ou dans la standardisation, parce que chaque histoire est singulière.
Complètement, chaque histoire est singulière, chaque parcours, chaque monde. On regarde le monde toujours avec nos expériences aussi. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est juste répondre à cette fameuse question « comment tu as fait et est-ce qu'on s'en sort ?» Et je l'ai fait en essayant de décortiquer au maximum les étapes, je parlais de la colère tout à l'heure, mais les étapes par lesquelles je suis passée.
D'ailleurs, dans le livre, vous répondez à cette question, est-ce qu'on s'en sort finalement, donc via votre parcours. Mais à travers, moi j'entendais une autre question, c'est comment est-ce qu'on y entre? Et finalement, vous répondez à cette question aussi.
Comment on y entre?
Les éléments qui font qu'on entre dans ce cercle infernal.
Oui, quand on entre dans le cercle des violences,
oui.
C'est... Pour ma part, en tout cas, je parle toujours que de moi, hein, mais j'avais un terreau assez fertile, comme je l'explique, hein, c'est manque de confiance, une culture, une éducation qui faisait que j'avais une vision de l'homme qui était complètement
façonné par la société, finalement.
Oui, oui, il y avait les écrans, il y avait la musique, il y avait ce que je pouvais voir, il y avait les contes pour enfants, cette fameuse princesse qui est toujours sauvée par ce prince charmant. Je me dis, waouh, moi aussi, je vais attendre un prince charmant, il va venir me sauver de quoi? Je ne sais pas. À part de moi-même, je vois pas de quoi il pourrait me sauver. Et donc, j'avais ce terreau-là qui faisait que je connaissais pas la vie de couple. J'étais très empathique. Donc, une facilité à me mettre à la place de l'autre.
Aujourd'hui, on dit hypersensible.
Voilà, hypersensible,
hypérémotive. Mais vous refusez quand même beaucoup ces appellations d'hypersensible, hypérémotive.
J'aime pas les cases.
Les étiquetages.
Ouais, voilà, j'ai toujours du mal avec ça. Ça veut dire quoi, finalement? Moi, je pense qu'on est tous hypersensibles, c'est juste qu'on a oublié notre sensibilité. Hein. Quand on est enfant, on pleure tous facilement, on rit tous facilement. Et puis après, quand on grandit, on perd un petit peu cette âme. Hein. Donc, hyper, rien du tout. J'ai une sensibilité particulière peut-être, mais oui, j'avais ce terreau qui faisait, et puis j'avais déjà vécu des violences avant, donc en plus je me baladais avec des traumas non réglés, et là c'était le combo gagnant, quoi. Véritable.
non réglé et non entendu.
Alors là, c'est alors ce qui est terrible, c'est que à l'époque on se dit, bon, c'était en 99, c'est passé en 99, donc je vois un médecin qui se moque de moi, hein, concrètement, parce que je viens d'être violée quand même, hein. Et je lui explique, je lui dis, j'ai mal à la tête, et en fait il me fait, voilà, il regarde un petit peu, et puis il voit quand même que je me suis fait très très mal, c'est-à-dire que je suis vraiment en grande souffrance à ce moment-là, et puis je lui dis, à un moment je craque, je lui dis, écoutez, je suis pas venue pour mon mal de tête, j'ai été violée, et là il est là sur son bureau, et il rédige une ordonnance, et puis il me regarde, il me fait, mais est-ce que vous êtes enceinte? Et je lui dis, c'est une question qui ne m'était pas du tout posée à ce moment-là. Je lui dis, non. Et puis il me dit, c'est pas si grave alors. What? Et donc je pars comme ça. Je dis, ok.
En 99.
En 99, je dis, c'est pas si grave alors. Je vais continuer ma vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et en 2003-2004, je crois, quand je porte plainte, c'est pas mieux. Parce qu'on me fait comprendre que je fais des études de droit et que, vous savez, s'il y a un procès, on ira chercher dans votre vie intime, ce que vous avez fait sexuellement, qui vous avez côtoyé. Et si vous voulez être magistrate, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc on va classer sans suite.
Waouh.
Voilà. Donc je me balade avec tout ça quand je crois, moi, que je vais bien. En fait, à l'intérieur, c'est une catastrophe.
Alors là, Julie, c'est important, en fait, parce qu'en fait, elle met vraiment l'éclairage sur, justement, on parle de la société, donc ça reste toujours quelque chose d'immatérialisé, on sait pas trop de quoi on parle, mais là, on parle de quelque chose de très précis, on parle des institutions, donc là, pour le coup, médical et judiciaire, enfin, la police, en l'occurrence, hein, pour votre dépôt de plainte, et alors, on essaye, actuellement, en 2022, on n'a pas tellement bougé, hein, en réalité, hein, parce que on essaye de mettre en place certaines choses, mais on voit bien qu'il y a toujours quand même cette représentation de si elle s'est fait agresser sexuellement, si elle s'est fait violer, c'est qu'elle l'a quelque part cherché, comment est-ce qu'elle était habillée, qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-ci, dans telle rue, dans tel quartier, ça perdure encore. Donc on voit bien que finalement c'est très difficile de changer. C'est faisable, mais il est encore difficile de changer finalement ses représentations. Là, ce médecin en l'occurrence, enfin, c'est ignoble. Ignoble, c'est-à-dire qu'il vous écoute pas.
Non, il s'en moque complètement. Il a bien vu, il m'a examiné, il voit bien que là, s'il me laisse sortir, et en plus en me laissant avec cette phrase-là, c'est pas ce qui aurait pu se passer. Heureusement, j'ai une force autre. Et je suis rentrée chez moi, j'ai continué ma vie comme je pouvais. Mais quand on n'est pas entendu par un médecin à ce niveau de violence, parce que c'est une nouvelle violence, hein, qu'on vous
Tout
envoie dans ces cas-là, dites à qui je vais pouvoir parler, en fait.
Alors c'est vrai que maintenant, le corps soignant essaye tant bien que mal de se former, ne serait-ce, ce que peut faire, et s'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, bon sang, si vous êtes mal à l'aise avec ces questions-là, céder votre place, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au moins un répertoire de numéros pour adresser les femmes au bon endroit. Vous avez le droit en tant que professionnel d'être mal à l'aise avec ces questions. C'est pas ce qu'on vous reproche, mais adresser. Quand je ne suis plus en mesure d'accompagner, je reconnais en fait mes limites pour X raisons, une histoire personnelle ou autre, et je délègue. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand une personne est en souffrance face à nous.
Donc, complètement, oui, complètement. Après, le cycle, et en tout cas la manière dont on glisse là-dedans, moi j'aime bien rappeler que ça commence pas par une gifle, en fait. Ça commence par une histoire d'amour. C'est-à-dire que vous avez en face ce fameux prince charmant que vous attendiez. Là, vous êtes la Belle au bois dormant, il arrive, il vous réveille, il vient vous sauver. Donc, il est parfait. Il est parfait dans ce que moi, j'attendais, en tout cas. De ma vision de l'homme à ce moment-là, il était parfait. C'était un stéréotype, véritablement.
C'est ça. Vous le dites dans votre livre, vous dites effectivement, on oublie qu'avant ça, il y a eu de la séduction, une histoire d'amour, on se sentait bien avec cette personne. Enfin, la personne cochait toutes les cases de la représentation que l'on a du couple parfait.
Tout. Et quelle écoute, mon Dieu. Alors, un homme qui vous écoute, c'est extraordinaire. C'est pas contre les hommes, hein, pas du tout. Il y en a beaucoup qui écoutent. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était incroyable que quelqu'un m'écoute avec cette oreille attentive pendant des heures, mais, oh, mon Dieu, c'est génial.
Et j'ai trouvé la perle.
Il n'écoute pas du tout pour m'aider ou par compassion ou pour rien d'autre. C'est juste pour l'utiliser ensuite contre moi.
Mais pour revenir sur la question de Nadia Elbouga, comment est-ce qu'on rentre dans les violences conjugales, vous expliquez qu'on ne le sait pas parce que au moment où on rentre, il n'y a pas de clochette, il n'y a pas un marqueur.
Exactement. Hein,
non, sinon on n'est pas plus folle qu'une autre. Hein. On verrait le panneau rouge et puis on n'irait pas. S'il y avait marqué, attention, je vais te taper dessus ou je vais t'insulter, ben bon, on a quand même un peu d'amour propre et d'amour, voilà, et puis une autre vision du couple. Donc non, il n'y a pas de clochette. C'est très insidieux. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que quand vous êtes toujours dans l'ambivalence du chaud, du froid, vous êtes dans la culpabilisation et vous êtes empathique en plus, donc à chaque fois vous essayez de prendre sur vous, essayez de comprendre ce comportement, cette phrase, cette espèce de pique bizarre sous couvert d'humour parfois, et puis petit à petit vous rentrez et puis il appuie toujours là où ça fait mal. Moi c'était la dépendance affective et il l'a bien senti, ce fameux téléphone auquel il ne répond jamais, quand il vient je ne sais jamais, parfois il passe, il me laisse un message en disant ah bah t'étais pas là, je deviens complètement folle jusqu'à rester chez moi. Attends, je me dis comme ça au moins je suis sûre que s'il vient,
je le louperai pas,
je serai là parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Donc ça commence comme ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui ghoster quelqu'un. Ça rend dingue, en fait. Il répond. Et à l'époque, en plus, il n'y avait pas WhatsApp où on voyait qu'il avait lu.
Ouais,
c'est là, on ne savait même pas s'il avait lu. Donc, on était avec notre téléphone.
On sait juste si la personne l'a reçu ou pas, mais est-ce qu'elle l'a lu.
Donc, ça commence de manière très, très insidieuse. Et puis, il vous isole. Donc, vous n'avez en plus plus ce regard extérieur de la personne qui pourrait vous dire « Oh là là, Julie, t'as pas l'air bien, t'as l'air triste, toi qui rigoles tout le temps, etc. » Ou « C'est bizarre ta relation. » Il y a juste une amie qui me le dit à un moment, elle dit « Mais Julie, tu peux pas être une femme à la fenêtre comme ça. » Mais au moment où elle me le dit, ça fait pas tilt. Pas encore, mais ça s'ancre. C'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure, je me dis « Mais c'est quoi cette relation, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ?»
On parle des violences conjugales ce matin jusqu'à 10h. Je rappelle que vous publiez, Julie Dénès, les violences conjugales. Est-ce qu'on s'en sort ? Les clés de mon chemin de résilience aux éditions Mindset.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et nous parlons des violences conjugales parce que pas de vacances pour les violences conjugales.
Ouais,
On en parle avec notre invitée ce matin qui s'appelle Julie Dénès. Alors on a parlé de votre dernier livre qui s'appelle Les violences conjugales, est-ce qu'on s'en sort ? Les clés de mon chemin de résilience aux éditions Mindset, mais qui font suite à un précédent livre.
Hein. Oui, tout à fait. Une poule sur un mur qui est sortie en 2017 aux éditions Michalot.
Alors, une poule sur un mur, c'est pour reprendre une chanson que les enfants connaissent bien.
Oui, et ça n'a rien à voir. Oui, parfois, on me demandait, c'est un livre pour enfants. Je disais, oh non, surtout pas. Pas pour les enfants, non. Mais c'est parce que c'est une clé. C'est une clé de ma prise de conscience et de la bascule et ce qu'on appelle le déclic dans le chemin des violences. Le moment où je dis stop. Et cette comptine est très révélatrice. Et effectivement, mais au moment où j'écris une poule sur un mur, j'ai pas conscience de ce qu'on retrouve dans les violences conjugales, est-ce qu'on s'en sort. Je l'ai vraiment écrit comme ça d'une traite. Je dis souvent, c'est un peu comme l'explosion d'une mémoire traumatique. Michalon m'a dit, vous écrivez, paix à son âme, vous écrivez bien, mais vous écrivez peu. J'ai dit, mais je vais écrire. Toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire. J'ai appris à lire, à écrire toute seule. Je me dis, c'est le moment ou pas. Donc, j'ouvre mon ordi et pom, et le truc sort. Ouais, mais c'est une souffrance, des pages de souffrance et de... Oh, il me dit waouh! Et j'avais tout ça en moi depuis ces années, 14 ans avec tout ça en moi. Donc c'est une poule sur un mur et brutale, oui, dans sa manière d'écrire.
Alors c'est ce que je vous disais hors antenne, en fait, c'est un livre qui est très intéressant dans le sens où, comme vous livrez tout de façon très brute et que vous ne connaissiez pas tous les mécanismes que vous avez découverts par la suite au fur et à mesure et qui je pense ont permis aussi l'écriture de ce livre actuel, hein, Les violences conjugales, est-ce qu'on s'en sort? Vous livrez tout de façon tellement brute que quand on est professionnel et qu'on repère en fait les mécanismes d'emprise dans votre récit, on se dit ah oui, vraiment il y a rien de calculé dans ce que vous racontez, même si à un moment donné vous dites que vous romancez vers la fin, vous le décrivez très bien d'ailleurs dans la conclusion en expliquant que vous l'avez romancé, alors vous nous expliquerez pourquoi vous avez romancé la fin, mais qu'en réalité tout ce que vous décrivez vous est arrivé et même vous avez je pense ménager le lecteur, oui, et la lectrice.
Oui, j'ai fait un tri dans tout ça et j'ai rajouté des moments de respiration. Oui. Mais dans la première version, il y avait 45 pages en format Word, hein, de souffrance. Il n'y avait que ça. Et je me suis dit, le lecteur, là, je vais le perdre. À un moment, il va se dire, c'est pas possible, quoi. Et je l'ai mis donc aussi à la troisième personne. Je dis pas je, j'utilise Eve parce que c'est mon deuxième prénom. Et j'avais encore besoin de me planquer derrière elle pour
Parler à la troisième personne.
J'étais pas encore en train de me dire que c'était mon histoire véritablement, hein. C'est vraiment très très dur tout ce passage d'acceptation et de se dire en fait Eve c'est toi. Et quand j'ai terminé, j'ai changé la fin parce que je voulais protéger ma famille. Parce que la fin s'est pas passée comme ça. Je me suis dit, bon, là, c'est lui ou c'est moi. Donc, j'essaie de récupérer mes clés, etc. Jusque-là, on est OK. Je me suis dit, c'est lui ou c'est moi. Là, j'ai l'impression qu'il ne va pas me laisser partir. Et j'ai fini mes études. Donc, j'ai appelé mon père. J'ai dit, écoute, papa, ça y est, je vais aller travailler. Je rentre de Bordeaux, viens me chercher de Bretagne, quoi. Lui, content. Il dit, sa fille va travailler, c'est cool. Donc, il dit, bah, j'arrive. Je dis, j'ai déjà envoyé le préavis. C'était un meublé. Donc, il débarque. Avant on était parti en Bretagne, voilà, c'est ça. Je reviens parce que c'est très long, c'est très loin plutôt. Avant tout ça, on est parti en Bretagne, voilà. Je me dis c'est lui ou c'est moi. Donc si jamais il m'arrive quelque chose, personne ne sait, je suis complètement isolée, personne ne l'a vu. Donc je vais me retrouver, on va se dire qu'est-ce qui s'est passé, s'est suicidée, elle a fait quoi. Je dis à maman, voilà, c'est mon anniversaire, ça fait 2 ans que je suis avec machin, ça serait bien qu'on monte ensemble, quoi, que vous le rencontriez. Oui, trop bien, très contente. Donc il débarque là-bas, accueilli à la Bretonne, tout le monde l'adore, machin, et ça se passe super bien. Voilà. Et moi je me dis, bon, c'est ok, ils l'ont vu, ils savent qui c'est. Donc maintenant je vais rentrer, et en plus je comptais sur l'attachement peut-être qu'il aurait pu avoir pour mes parents, pour se dire, je vais peut-être lâcher la fille, quoi. Maintenant que je ne suis plus, lui n'était plus isolé. Il était identifié. Donc il fallait que je sois plus maligne que lui pour pouvoir m'en sortir. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit, voilà, papa vient me chercher samedi prochain, tu laisses les clés dans la boîte aux lettres. Et là, j'ai prié. Mais si c'est comme la dernière fois, il va me gifler, il va venir, il va tout casser, je ne sais pas. Et quand je suis descendue, j'ai ouvert la boîte aux lettres et les clés étaient là. Et j'ai fait, ouf. Et mon père est venu me chercher.
Parce qu'il avait le double des clés de chez vous et il fallait récupérer ces fameuses clés.
Ouais. Alors j'ai une dame qui m'avait dit, mais pourquoi vous n'avez pas changé votre serrure? Bah, si c'était aussi simple, on changerait toutes nos serrures. C'est pas la serrure qui va l'arrêter, tout malheureusement. Donc voilà la fin de... Et c'est vrai que quand j'écris une poule sur un mur, je suis pas du tout consciente de tout ça. Et quand les professionnels me disent, oh là, vous expliquez très bien l'emprise, j'explique rien du tout, en fait. J'explique juste ce que j'ai vécu en essayant de donner... De mettre aussi le lecteur à côté de moi pour dire, en fait, les violences conjugales, en tout cas pour ma part, c'est ça, c'est aussi difficile que ça, c'est aussi compliqué que ça, et voilà pourquoi, en tout cas, moi, je ne pouvais pas partir, et pourquoi d'autres ne peuvent pas le faire.
Tout à fait. Et vous le décrivez très bien, parce qu'en fait, c'est compliqué et complexe, parce que, bon, une personne extérieure, ou qui n'a jamais vécu de violence conjugale ou autre, d'ailleurs, peut se dire, mais attends, mais je comprends pas, mais elle se casse, en fait, elle part, c'est simple, c'est quoi ce délire, en fait, elle se complique la vie. Mais il faut qu'on... Enfin, c'est pas aussi simple que ça, tout est imbriqué, et effectivement, vous le décrivez très bien. Alors, l'amour, je mets des guillemets parce que vous dites bien que ce n'est pas de l'amour. Mais en tout cas, ce que vous identifiez, vous, comme de l'amour, un attachement, une personne qui souffle le froid et le chaud, qui s'excuse finalement et qui dit qu'elle ne recommencera pas. Et vous trouvez des raisons. Oui, bah, il va peut-être... il trouve exactement, précisément ce que vous avez envie d'entendre, en plus au moment où, où il opère ce pseudo-changement qui n'en est pas un finalement.
Il n'en est pas un, bien sûr. Il sait, en fait, c'est ça qui est super vicieux, c'est que parfois dans la relation, il va vous montrer le visage de l'homme que vous avez rencontré pour vous dire, regarde, je suis encore là, c'est juste une mauvaise passe, voilà, on va reprendre, ça va être super. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on est sous la menace de quelque chose, c'est-à-dire que lui, il organise son impunité à côté. Oui. Souvent, c'est quelqu'un de charmant, que tout le monde adore, qui rigole, voire très bien inséré dans la société, ça peut être un chirurgien, un notable, etc. Donc, on n'a pas de raison de le soupçonner ou de croire la femme qui, elle, de son côté, est tellement détruite qu'elle en devient complètement folle et complètement anesthésiée et qui est capable de vous raconter des choses terrifiantes
qui peuvent sembler incohérentes,
bien sûr. Et comme elle est coupée de ses émotions, vous, en face, vous êtes incapable de réceptionner cette émotion, puisqu'elle n'en a pas, en fait. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait, ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn, il avait une cassette, et il m'avait dit, il avait filmé, évidemment...
Il avait filmé une fois vos ébats.
Voilà, nos relations sexuelles, et puis il m'avait dit, mais tu vois, maintenant, si tu me quittes, j'envoie ça à tes parents. Et il savait très bien que j'ai toujours fait en sorte que mes bêtises n'atteignent pas mes parents. C'est vraiment mon talon d'Achille, c'est ma famille. Il ne faut surtout pas toucher ma famille.
Sauf qu'il y a un détail dans cette vidéo que vous décrivez dans le livre, justement. Il a fait en sorte que ce soit une relation sexuelle, pour en tout cas un acte sexuel, on va dire ça, vu le contexte de violence, qui soit qui semble attentif. Il était plus calme, plus posé dans ses gestes, très tendre, ce qui n'est pas habituellement hors caméra.
Oui. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué quand on parle de violence conjugale. Vous avez l'escalier des violences, les psychologiques, violences verbales, violences physiques, et les violences sexuelles qui arrivent, et puis après, bon, le féminicide. Les violences sexuelles, à partir du moment où vous êtes sous emprise, vous êtes déconnecté de vos émotions, vous êtes complètement démoli. À quel moment il y a consentement pour quoi que ce soit? Pour moi, déjà, ça n'existe pas. Et vous êtes réduite en plus à un objet. Voilà, c'est comme, c'est pour ça que quand vous essayez de partir, il vous tape, c'est comme un enfant qui perd son jouet. Alors il le casse pour pas que les autres jouent avec. Et là, c'est exactement ça. Vous n'êtes qu'un objet sexuel avec des violences. Moi, j'ai des femmes qui m'ont raconté des choses. Mais aller raconter ça, mais c'est impossible, c'est indicible ce genre de.
Alors c'est là où moi ça m'a questionnée, parce que finalement vous dites, vous excusez d'ailleurs, pour moi c'était très poignant la fin de votre livre, le premier livre, Une poule sur un mur, où vous vous excusez de la violence que vous exposez. Non mais c'est incroyable quand même, dans quelle société on vit? C'est la victime, la résiliente, la survivante, la puissante, c'est les termes que vous utilisez, qui finalement s'excuse de ce qu'elle a subi. Pourquoi? Parce que, comme vous dites très justement, c'est indicible pour le commun de la société, c'est trop violent, c'est la vraie vie des femmes qui subissent des violences conjugales. Donc en fait, à un moment donné, il faut poser cette violence par écrit comme vous le faites, et même par image. Il faut que les gens puissent se prendre ça en pleine figure pour dire, mais il faut qu'on réagisse, parce qu'en fait, ces femmes, c'est peut-être ma fille, c'est ma cousine, c'est ma sœur, c'est ma mère, il faut qu'ils puissent se confronter à cette violence. On accepte bien la violence gratuite dans certains films, et ça semble choquer personne. Et pour autant, là, quand c'est un vécu dans sa chair, les gens s'offusquent. Voilà, c'est donc là, moi, ça m'a questionnée. Je me suis dit, en plus de ça, les femmes devraient encore se... j'ai plus le terme en bouche. S'auto-censurer.
S'auto-censurer, voilà. Bien sûr. Oui, on le fait en écrivant déjà. Mais il y avait le fameux déclic où je ne pouvais pas passer à travers le moindre détail, en tout cas, de ce que j'avais en souvenir, parce que j'étais tellement dissociée que c'était compliqué. Et revenir là-dedans, c'est-à-dire se mettre en spectatrice de ce qui s'était passé, ça, c'était dur. Mais j'étais... Pour moi, c'était important que les gens puissent comprendre jusqu'où ça peut aller et pourquoi à un moment on se pose la question de la légitime défense. Je rappelle que j'étais en droit et que j'étudiais le viol, j'étudiais la légitime défense. Et quand vous vous retrouvez dans un cas pareil, il n'y a plus rien qui va. il y a les textes et il y a la vie, en fait.
Ouais, il n'y a pas le recul. Non. On est dedans, en fait.
Ouais, vous dites, est-ce que c'est concomitant? Est-ce que c'est proportionné? Vous êtes là en train de faire une analyse juridique de ce que vous êtes en train de vivre. Il dit, mais même si ça l'était, moi, j'ai l'air d'une folle. J'ai l'air d'une folle. Donc, non, ça passe pas, quoi.
Ouais. Vos études vous ont peut-être permis de comprendre très vite que ce que vous vivez n'est pas normal et qu'il faut s'en sortir.
C'est même pas mes études. C'est ça qui est hallucinant. Non, c'est vraiment pas ça. C'est une question d'acceptation de la souffrance.
Mais très vite, vous le comprenez quand même. Parce que beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales mettent des années à le comprendre, ça.
Oui.
Donc,
moi j'ai des femmes, c'est 20 ans, 30 ans.
Voilà. Donc vous, le déclic arrive rapidement.
Oui, il arrive rapidement à partir du moment où ce qui me fait subir est disproportionné par rapport à la bêtise d'enfant, hein, parce que ça me renvoie à mon enfance, la bêtise que j'ai pu faire. Et là, je me dis, ben non, alors là, non, je suis désolée, on est un premier de l'an, il est minuit, quasiment minuit, je suis toute seule, tout est cramé.
Deux premiers de l'an. Il vous fait vivre deux premiers de l'an.
Mais le deuxième, c'est vraiment le déclic. Ouais. Et là, je me dis, non, là, je n'ai rien fait de mal. Là, j'ai beau retourner tout dans la tête. Au début, je pouvais douter. Là, je suis désolée, non, c'est fini. Et c'est comme ça que quand je sens l'impression, je déconnecte. Mais c'est vraiment le point culminant. Après, c'est fini. Après, il peut me dire, me faire tout ce qu'il veut. C'est fini. Je n'ai qu'un objectif, c'est fuir.
Et là, vous organisez votre fuite, en fait.
Oui, c'est bon.
Julie Desnais est notre invitée. On parle de votre dernier livre qui vient de sortir, Les violences conjugales. Est-ce qu'on s'en sort? C'est une question, les clés de mon chemin de résilience aux éditions Mindset. Et vous êtes notre invitée jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et on parle des violences conjugales avec notre invitée aujourd'hui qui s'appelle Julie Desnais et qui publie Les violences conjugales. Est-ce qu'on s'en sort? Les clés de mon chemin de résilience aux éditions Mindset. C'est votre chemin, mais aussi... Alors on va pas dire que vous aimez pas méthode, mais il y a quand même des exercices pour celles et ceux qui nous écoutent.
Oui,
c'est un cahier presque. Hein.
Oui, c'est ça. Chez nous, on appelle ça un carnet. Un petit carnet, un peu plus soft, voilà, où vous avez, en fait, vraiment tout ce que j'ai expérimenté hein, sur le chemin, ça peut être des exercices d'écriture, puisque je suis beaucoup dans l'écriture et je sais à quel point il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on peut parfois écrire, ça peut être de l'art-thérapie aussi, hein, pour exprimer vraiment le mal-être qu'on a à l'intérieur, et puis voilà, toutes ces petites phrases que j'ai pu me dire pour retrouver l'estime. Et puis il est illustré par Anne-Sophie Le Keniec pour mettre un peu de légèreté dans tout ça. Voilà, je trouve que c'est important.
Et c'est vous qu'elle représente d'ailleurs.
Oui.
Dans ces illustrations.
Oh, ouais, j'adore parce que ce puzzle là,
qui sont très belles. Vous dites d'ailleurs dans les clés que vous proposez, une des clés, c'est se pardonner. Pardonner à soi d'abord. Comment est-ce qu'on peut se pardonner?
Mon Dieu, ça c'est.
Et se pardonner de quoi?
C'est un beau chemin, ça. D'arriver jusqu'au pardon. Le pardon, c'est un don d'amour pour soi. C'est parce que vous. En fait, moi je sors de là, j'ai honte, j'ai peur, et je me sens coupable de tout. Je me dis, c'est moi. En plus, tête bretonne, alors on n'a pas très envie que ça se sache et qu'on se dise, ouh, elle est faible, elle est machin, elle est truc. Donc c'est pour ça que j'avais pas très envie de parler. Et donc je m'en voulais. Je m'en voulais d'être rentrée dans ce cycle, d'avoir subi tout ça sans bouger entre guillemets. C'est-à-dire, je me dis, mais ça me ressemble pas. En plus, je disais à tout le monde, oui, moi je suis une femme libre, indépendante,
forte,
femme mariée, forte. Et on tombe là-dedans. J'ai dit, oh, mon Dieu. Et puis me pardonner de m'être fait aussi mal, d'être allé aussi loin dans la souffrance. Donc c'est un vrai don d'amour pour soi. Mais c'est un très très long chemin. En tout cas pour moi. Ça passe par plein d'étapes d'acceptation, d'abord de compréhension, parce que tant qu'on ne comprend pas, c'est compliqué de pouvoir conceptualiser tout ça, conscientiser les choses, d'accepter que ce soit soi aussi, comme je disais, la poule, quand je l'écris, je suis encore au moment où je suis pas sûre, c'est plutôt Eve qui va gérer ça. Et de reconstruction, ce fameux puzzle là qu'on voit en couverture, c'est ça, vous avez un puzzle et complètement il y en a partout, et chaque petite pièce va être une pièce du puzzle intérieur de l'amour, de la confiance et de l'estime, et arriver là-dessus, eh bien c'est se faire ce don-là de ok, t'as vécu ça et puis bah, pardonne-toi. Pardonne-toi, ça y est, c'est ok.
Et vous dites justement, pour arriver à ce stade du pardon, évidemment, vous proposez plusieurs clés, dont l'une est, alors ça peut paraître comme ça étonnant, vous dites que pour sortir de cette zone grise, en fait, qui est la concession à sens unique, finalement, c'est de faire de soi-même la priorité. Donc, de remettre au goût du jour l'égoïsme.
Mais oui, mais l'égoïsme bienveillant. Ouais. Comment vous pouvez demander à l'autre, là on est dans la dépendance affective, hein, des choses que vous ne vous donnez pas. J'étais en tel besoin d'amour, de tendresse, de douceur, mais je ne pouvais pas le recevoir parce que je ne me le donnais pas, ça, tout simplement. Je ne donnais pas la valeur qu'il fallait, je ne positionnais pas correctement. Et se retrouver dans ce... Oui, d'abord, moi, laissez-moi le temps juste de savoir qui je suis, de connaître mon histoire, de savoir comment j'en suis arrivée là, et d'abord de m'offrir tout ça, de savoir dire non, d'arrêter de vouloir être empathique avec tout le monde, de vouloir contenter tout le monde, voilà, aider tout le monde. Non, d'abord, fais-le pour toi. Tu ne peux pas donner ce que tu ne te donnes pas. Et c'est ce que j'ai compris. Je ne pouvais pas demander non plus ce que moi-même je ne pouvais pas me donner parce que je pensais être une miette. Quand je disais qu'il ne me laissait que des miettes de temps, moi j'ai cette conversation-là où je dis oui, il est beaucoup pris, donc je prends les miettes de son temps et puis j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour notre relation. Mais je ne suis pas une miette. Enfin, personne n'est une miette. Ma valeur à ce moment-là, c'est celle d'une miette. Bah, c'est quand même très très bas. Donc après, bah, c'est d'abord soi. Soi, ses envies, ses besoins, etc. Et éviter de donner son pouvoir sur ses émotions, sur son avenir, à quelqu'un d'extérieur. Il vous suivra à partir du moment où vous êtes déjà la femme que vous voulez être. Ne lui demandez pas de faire de vous la femme que vous voulez être. C'est d'abord vous. Et lui est le prolongement, il complète. Mais c'est pas ma moitié, c'est pas. Je suis déjà entière, j'ai besoin de personne. Et ensuite, oui, j'ai envie. C'est différent. L'envie ne fait pas tomber dans la dépendance affective, à mon sens.
Alors, c'est très, très important ce que vous dites, quand très souvent, on entend cette expression. Alors, est-ce que tu as trouvé ta moitié? Est-ce que tu cherches ta moitié? Non, on est entier ou rien, mais on n'est pas la moitié de quelqu'un. C'est précisément là la problématique, hein, d'être qu'une moitié de soi et de laisser l'autre la compléter. Cette absence de moitié, c'est déjà dangereux dans la relation.
À mon sens, oui. On est complète, on a tout, on a déjà tout. Moi, c'est ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que j'avais tout et que je pouvais tout construire en moi. Et que je pouvais être la femme que je voulais, même en étant seule, en fait. J'étais déjà complète, j'avais besoin de personne, ni pour faire ci, ni pour construire ma vie, comme on dit, ni même pour avoir des enfants. Je pouvais juste être seule. Mais j'avais envie de partager ensuite cette force aussi, cette envie de grandir ensemble, de partager cet amour, de faire des choses ensemble. Ça, oui. Mais avoir une moitié, non. Je n'ai pas de moitié à chercher. Je n'ai pas du tout envie de donner ce pouvoir ou de transférer cette chose sur l'autre qui n'a rien demandé aussi. Parce que ça fait peser sur lui tout un tas d'attentes. Mais personne ne me dit qu'il est en capacité de répondre à ces attentes-là.
Tout à fait. Donc, dans votre livre, en fait, vous donnez des clés sur le plan micro, c'est-à-dire à titre personnel, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir m'en sortir. Mais vous dites aussi un élément, et au tout début de votre livre déjà, vous partez du niveau macro. C'est-à-dire vous dites qu'il faudrait peut-être aussi qu'on revoie les références que l'on a, cinématographiques, artistiques, du bad boy, hein, c'est-à-dire on érotise en fait le mauvais garçon. D'ailleurs, vous donnez l'exemple, on fait partie de la même génération, l'exemple de Beverly Hills, hein, où le beau gosse c'était Brandon, non, mais en fait celui qui était érotisé et celui qui attirait l'attention des jeunes femmes plutôt, c'était Dylan.
C'était Dylan. Voilà. Effectivement. Aujourd'hui, je vois que bon, il y a quand même des choses qui ont bougé, et c'est vraiment top pour les petites filles qui arrivent et pour les petits garçons aussi. Hein. bien qu'on ne leur demande pas à chaque fois d'aller libérer qui que ce soit, quoi. Enfin, soit juste un garçon avec respect, bienveillance et amour. Et les petites filles, je vois qu'on en a des héroïnes, on voit quand même des choses qui bougent et qui fonctionnent. Mais à l'époque, on était dans la dualité, hein. C'était vraiment, il y avait soit, effectivement, Brandon, soit Dylan. Il n'y avait pas de juste milieu. Et Brandon était un peu gnangnan. Hein, il était quand même un peu gnangnan. Donc, non, ça ne matchait pas à l'époque.
Donc, il faut changer ses paradigmes.
Tout à fait.
Ou il y en a peut-être pour tous les goûts.
Et oui, mais il y en a pour tous les goûts. Mais en tout cas, une chose est sûre.
Il y a peut-être celles qui se reconnaissent plus dans...
Oui, mais en tout cas, une chose est sûre. Ça, il n'y a qu'un seul goût. C'est il faut désérotiser la violence. Celui-ci, il n'y a pas mille goûts.
Vous refusez, Julie, l'étiquette de femme battue. Et vous revenez un petit peu sur le statut de victime. Donc ça, c'est important pour celles qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Déjà, pourquoi est-ce que vous refusez cette étiquette d'être une victime ?
Pour moi, être victime, ça a été un passage. Parce qu'on ne m'a jamais reconnue comme victime, mais au sens judiciaire,
juridique.
Pour moi, le sens juridique est important. C'est qu'à un moment, quelqu'un, que ce soit le policier, que ce soit le magistrat, vous dites oui, reconnaisse votre souffrance et qu'effectivement vous avez été victime de violence. Mais c'est pas mon quotidien, c'est pas mon métier,
c'est pas mon identité.
C'est pas mon identité.
On l'est pas 24 heures sur 24.
Ah, mais je ne le suis même plus aujourd'hui. J'ai été victime de violence conjugale, je ne le suis plus aujourd'hui. Donc c'est pas, ça fait partie de mon expérience malheureuse de vie, mais ça fait partie aussi de la femme que je suis aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que l'image de la victime renvoie ?
Ben, la victime, on renvoie la victimisation, on renvoie...
La passivité.
La passivité, oui, complètement. La victime, c'est celle qui n'a rien fait pour s'en sortir. Quand on dit t'es une victime, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne sers à rien, quoi. T'as subi, et puis finalement, c'est peut-être pas un peu de ta faute, ce qui s'est passé.
Vous parliez du pardon tout à l'heure, mais vous avez pardonné à votre bourreau.
Oui. Ça, c'est un autre chemin.
Oui, non, c'est un autre chemin, mais parce qu'il y a deux volets. Il y a se pardonner.
Oui, tout à fait.
Et après, lui pardonner.
Mais attention, pardonner, c'est pas excuser.
Non, mais attendez, mais moi, je voudrais savoir, c'est parce que ça peut certaines qui nous écoutent vont se dire, mais pourquoi elle lui a pardonné, en fait, finalement?
Alors, pardonner à l'autre, effectivement, comme vous le disiez, c'est ni excuser, ni valider quoi que ce soit. Alors, surtout pas. Pardonner, c'est arrêter de porter cette souffrance en soi. C'est vraiment lâcher. C'est comme dit Bouddha, et je crois que je le dis dans le livre, quand vous êtes dans la rancœur, dans la colère...
Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Bien sûr, ça reste à l'intérieur. Une fois que moi, je suis allée jusqu'à ce pardon, et encore une fois, c'est encore plus compliqué peut-être que de se pardonner à soi-même.
Non, mais c'est ça la question.
C'est très très dur, hein, parce que on confond pardon et laisser faire et acceptation. Pas du tout.
Exactement.
C'est totalement intérieur. C'est lâcher prise. C'est se dire ok, cette histoire m'appartient, fait partie de mon expérience. Aujourd'hui, je suis telle femme. Je lâche là-dessus. Je te pardonne.
Mais de quelle façon on pardonne en fait?
Il y a plein de...
Non mais vous, vous, de quelle façon vous lui avez pardonné en fait?
J'ai juste pardonné intérieurement. J'ai juste lâché, arrêté de ruminer, arrêté de me dire mais comment il a pu faire ça, comment est-ce qu'on peut être aussi violent, etc. Arrêté de ruminer tout ça et de dire ok, un homme qui... Il devient comme ça. Comme je disais tout à l'heure, la joie, l'hypersensibilité, je pense pour ma part que c'est notre état naturel. Quelque chose ou quelqu'un l'a fait devenir comme ça. Violent. Et c'est pas moi, hein, puisque je viens après, sûrement d'autres femmes, il y en a eu après. Mais c'est aussi reconnaître ça. Que je ne suis pas la seule en souffrance et que finalement ce sont deux énormes souffrances qui se sont rencontrées et qui ont échangé de manière très très brutale.
Et c'est intéressant parce que pardonner, enfin moi j'entends une part donnée en fait, vous redonnez la part qui appartient finalement à l'autre, donc son histoire, ce qui l'a fait devenir comme ça, et vous la faites plus vôtre, parce que finalement elle a jamais été vôtre.
Non,
voilà,
effectivement.
Et c'est dans ce sens où on est victime à un moment donné en fait, on redonne cette part à l'autre qui lui appartient.
C'est ça, son histoire ne m'appartient pas. Tout à fait.
En racontant votre histoire dans deux livres, vous vous êtes affichée. Enfin, quand je dis affiché, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, exposé. L'histoire, elle est devenue publique. Mmh. Vous avez appris à parler aux médias. Et finalement, qu'est-ce que ça fait d'avoir à parler de son histoire devant tout le monde?
Oh, alors au fil des ans, c'est un peu plus facile, entre guillemets, même si on est toujours sur le fil de l'émotivité.
Mais oui.
Vraiment, il suffit d'une question, d'un regard ou d'un truc et pouf, ça peut partir d'un coup.
Bien sûr.
Vraiment. Parce que c'est aussi une joie de se dire, je suis là en train de parler de quelque chose et de donner de l'espoir. Et je suis aussi en amour avec tout ça, mais... là, c'est dur, la question est dure.
Vous êtes là, en fait, où vous avez toujours voulu être, finalement.
Oui.
Dans l'aide,
oui,
dans l'aide, ça, dans l'accompagnement, dans l'espoir que vous disiez en introduction.
Oui, je trouvais que ça manquait d'espoir, en fait. Mmh. Et toutes les représentations de victimes, c'était ce qu'on disait, la femme battue. Moi, je n'ai pas été battue.
Vous n'avez pas la tête de l'emploi, comme vous dites.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a une tête de l'emploi?
Il n'y en a pas.
Non.
Vu le nombre de messages que j'ai reçus, il n'y a aucune tête d'emploi. Et il faut une force incommensurable, je crois, et je salue toutes les femmes qui sont capables de le faire, pour venir parler de choses aussi difficiles à visage découvert.
Vous n'avez pas la tête de l'emploi, j'allais dire, mais en tout cas, vous avez écrit 2 livres sur le sujet. Oui. Nadia, vous le montrez à la caméra. Les violences conjugales, est-ce qu'on s'en sort? Les clés de mon chemin de résilience. C'est un carnet aux éditions Mindset, à vos éditions, aux éditions que vous avez créées et dirigées. Julie Dénès, vous étiez notre invitée. Nadia, bonnes vacances.
Merci.
Vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée. Oui. Santé sur beurrefm.
Merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.